Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche d'élection pour 3 heures d'émission en direct, en 2 parties. Comme à l'habitude, nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Laurent Dès, qui est historien, à l'occasion de la publication aux éditions Perrin de son livre « Reine carolingienne », qui consacrait donc, comme le titre l'indique, à l'histoire de ces reines qui sont méconnues. Et puis à 19h30, nous recevons Nicolas Chaudin, qui est écrivain, éditeur, pour le livre qui vient de publier chez Actes Sud, La cavalcade des princes. C'est un essai qu'il écrit et qui est consacré au cheval et au pouvoir, aux liens qui les unissent. Je rappelle que Laurent est au standard et qu'il sera ravi de prendre vos questions et vos messages que nous proposerons à nos invités. Je rappelle le courrier électronique de la radio, radiocourtoisie@rc.fr, radiocourtoisie@rc.fr, ou par téléphone 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Et nous commençons donc la première, nous abordons maintenant donc la première partie de cette émission. Hormis quelques rois et empereurs qui demeurent dans notre mémoire, l'histoire du Moyen-Âge est assez méconnue. Alors on se souvient bien sûr de Clovis pour les Mérovingiens, et puis naturellement Charles Martel, Pépin le Bref et Charlemagne pour les Carolingiens. Mais de quelle reine ou impératrice nous souvenons-nous? Alors bien sûr, il y a Clotilde, l'épouse de Clovis, et pourtant plus de 30 reines épousèrent en 9 générations un descendant direct de Charles Martel qui fonda cette dynastie des Carolingiens. D'elle, quelques noms subsistent, tels Berthe au grand pied. Alors nous demandons à notre invité si Berthe au grand pied avait vraiment d'ailleurs des grands pieds, d'où lui vient ce nom. Et il faut dire d'ailleurs que à nos oreilles contemporaines, leur prénom ne semble pas très gracieux et féminin. Ainsi Richard, Hildegarde, Hermantrude, Teuteberge, Gerberge, et puis l'étonnant Ogive. Et pourtant, certaines d'entre elles furent célébrées pour leur grâce et pour leur beauté, et aussi d'ailleurs pour leur intelligence. Comment ces reines étaient-elles choisies? Quel fut leur quotidien? Quel fut leur rôle? Était-ce un rôle actif au-delà des bénéfices d'alliances matrimoniales, pardon, ou alors simplement assurer la descendance carolingienne? Quel fut leur destin dans une époque réputée pour sa violence et sa dureté? Et surtout, quelles sont celles qui marquèrent leur temps? C'est une histoire méconnue qui vaut la peine d'être redécouverte. Et ce soir, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous propose d'aller à la rencontre de ces reines qui sont dans notre histoire nos aïeules. Et ceci, nous allons le faire grâce à un livre passionnant qui a tout le mérite, justement, de nous les présenter. Ce livre, c'est « Reine carolingienne, Berthe Hildegarde, Judith et les autres », 751-987, que Laurent Dès publie aux éditions Perrin. Et vous l'avez compris, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Laurent Dès. Laurent Dès, bonsoir.
Bonsoir Thierry Delcourt.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour évoquer ce sujet passionnant. Les auditeurs vous connaissent bien parce que nous avons eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises à l'occasion donc de vos publications. Je rappelle que vous êtes historien et médiéviste, vous êtes président honoraire de la Société de l'Histoire du Protestantisme, vous êtes aussi membre d'un certain nombre de comités de rédaction, comme pour les revues L'Histoire et Commentaires. Vous êtes président du jury du prix de Provins Moyen-Âge. Vous êtes aussi secrétaire général du jury de la Fondation Napoléon. Et tout ça, ce n'est qu'une sélection parmi vos nombreuses responsabilités, Laurent Dès. Et puis, Eh bien, naturellement, comme historien, vous avez écrit de nombreux livres, notamment pas que sur la période au Moyen-Âge, hein, qui est bien sûr l'une de vos spécialités, parce que vous avez aussi bien d'autres spécialités et d'autres sujets dans l'histoire que vous avez abordés, mais je vais me contenter d'en citer quelques exemples qui sont liés au thème de notre émission ce soir. Vous avez écrit dans la collection Bouquin, Roi des Francs. Vous avez écrit aussi une biographie de Charles le Chauve, L'Empire des Francs, ça c'est chez Gallimard en 2021. Vous avez écrit sur Robert le Pieux, Le Roi de l'An 1000 chez Perrin, pour lequel d'ailleurs vous avez eu le prix de la biographie historique de l'Académie française. Vous avez naturellement, c'est inévitable, écrit sur Clovis de l'Histoire au Mythe, édition complexe. C'est vrai que l'histoire c'est complexe, mais alors je ne savais pas qu'il y ait une maison d'édition qui...
elle a disparu, ça a été repris par Perrin.
D'accord. Et puis, un livre qui vous est cher, m'avez-vous expliqué, c'est L'avènement du Capet, 3 juillet 987. Dans cette collection bien connue de Gallimard, 30 journées qui ont fait la France. Et c'est vrai, c'est une question que nous vous poserons ce soir, Laurent Zeiss, c'est à la fois l'explication de l'avènement des Carolingiens, la fin des Mérovingiens, l'avènement des Carolingiens, avec Charles Martel et Pépin le Bref, comment ça se passe, et puis aussi leur extinction, avec l'arrivée du Capet. Du Capet sur lequel, effectivement, vous avez écrit 3 juillet 1987. Comment cela s'est-il passé? Comment a-t-on changé de dynastie? Est-ce que ça s'est fait? Enfin, vous allez nous expliquer tout ça par la force, par élection, par influence, que sais-je, par accident, ça, c'est possible aussi, hein, si la dynastie s'éteint. Je ne crois pas que c'était le cas. Peut-être pour l'arrivée du Capet.
La dynastie n'était pas éteinte. Et même les Capétiens, donc les descendants du Capet, ont prétendu renouer avec la race de Charlemagne en épousant des descendantes avérées du grand empereur.
Bon, nous allons rentrer dans le détail parce que c'est une question, je pense, que nous nous posons tous, en effet. Comment cela s'est-il passé? En tout cas, je vous propose effectivement de commencer, si vous voulez bien, cette émission par les questions traditionnelles, mais la première question, en effet, c'est d'ailleurs, vous commencez par l'évoquer, Berthe au Grand Pied. D'où vient ce surnom de Grand Pied? Et surtout, ces prénoms très étonnants, si loin de ceux que nous pouvons donner maintenant.
Écoutez, pour ce qui est de Berthe, ça n'est pas une surprise, puisque ce prénom a survécu jusqu'aujourd'hui, pensons à au grand peintre Berthe Morisot, et à beaucoup d'autres. Donc Berthe n'est pas une surprise.
C'était Bertrande, d'ailleurs, son prénom.
Alors,
Bertrade.
Donc, selon les textes, selon les documents, la version ancienne, je dirais la plus ancienne du prénom, c'est Bertrade.
C'est Bertrade, ça, oui.
Mais à mesure que le régime, que l'Empire carolingien développait une sorte de renaissance culturelle, les scribes, les intellectuels, ont jugé meilleur de transformer Bertrade, qui peut-être sonnait un peu barbare, en Bertha. Tout ça s'écrit en latin, donc Bertrada d'un côté, Bertha de l'autre, qui faisait sans doute moins germanique, puisque les prénoms dont nous allons parler sont en effet d'origine germanique. La surprise, ça n'est pas le prénom de Berthe, c'est le fait qu'elle soit devenue reine en 751, lorsque Pépin le Bref lui-même a été élevé à la royauté, à la suite du dernier Mérovingien qui a été relégué dans un monastère. Alors pourquoi Berthe au Grand Pied? Bien, si je le savais, je vous le dirais. On voit apparaître cette épithète au début du XIVe siècle dans des chansons de gestes qui sont confirmées par François Villon. Vous connaissez tous la ballade des Tames du temps jadis, dont le troisième couplet dit « La reine blanche comme Ulysse qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Beatrix Alice, Aramburgis qui t'a le mène. » C'est là que, véritablement, Berthe fait son entrée avec son gros sabot, avec son grand pied, qui n'a certainement jamais existé, sauf à être une métaphore dont la signification nous échappe, parce que jamais un pipinide, un prince carolingien, n'aurait accepté quelqu'un dont il aurait eu, par accident, une descendance piébo.
Nos prénoms sont d'origine latine, alors si je comprends bien.
Il n'y a pas de nom et de prénom, il n'y a que des noms, naturellement, qui sont des prénoms.
Oui, mais les prénoms avec lesquels nous sommes familiers, parce que c'est Bertrade, ainsi que Hildegarde, Hermantrude,
Ogive... Et Thierry.
Oui, c'est Thierry, c'est magnifique, c'est ça sonne bien.
C'est Théodoricus,
oui,
qui est absolument purement ostrogo.
Oui.
Donc, sans vous qualifier d'ostrogo vous-même, eh bien,
ça ne me gêne pas.
Non, parce que c'est une dynastie très noble, mais l'onomastique contemporaine a gardé beaucoup de ses prénoms anciens.
Mais qui ont été latinisés.
Alors, comment nous n'avons de documents de cette époque que des textes en latin. Jusqu'au Xe siècle, nous n'avons aucun texte en langue qu'on appellera vulgaire, aucun texte écrit. Et nous ne savons pas quelle langue exactement parlaient les contemporains des dames du temps jadis. Donc il faut imaginer, c'est une, comment dirais-je, une adaptation. Quand vous avez Ermentrada, vous avez tout à fait tendance à faire passer en français, comme ça a été fait plus tard chez les historiens du Moyen-Âge plus tardif, en Ermentrude, Angelberga devient Angelberge, et Oda reste Oda.
Alors, je vous pose la question traditionnelle, Laurent Teiss, pourquoi ce livre? Comment l'idée vous en est-elle venue?
Eh bien, comme je suis très âgé, je parcours depuis un certain nombre d'années, et vous avez bien voulu le rappeler dans ma bibliographie, le paysage de des royaumes francs. Et chemin faisant, m'intéressant d'abord aux rois, puisque ce sont tout de même eux qui sont sur le devant de la scène, j'ai été amené à rencontrer leurs épouses, notamment à propos de ma biographie de Charles Chauve, pour laquelle vous avez bien voulu me recevoir ici il y a quelques années, où la reine Ermentrude, sa première femme, la seconde, l'impératrice Richelieu, m'ont paru mériter un retour et d'y adjoindre toutes leurs collègues, toutes leurs compagnes à travers les deux siècles et demi que représentent les dynasties carolingiennes. Et je me suis aperçu, chemin faisant, d'une part qu'elles étaient beaucoup plus intéressantes qu'on aurait pu l'imaginer, en une époque où on pense que la masculinité, que la virilité absorbe tout le champ de la curiosité et aussi du pouvoir. Et puis d'autre part, j'ai pu vérifier que la documentation était relativement abondante, beaucoup plus abondante que pour les reines mérovingiennes, ce qui n'est pas surprenant, beaucoup plus abondante pour les premières reines capétiennes, au moins jusqu'au règne de Louis VI le Gros, c'est-à-dire deux siècles après l'avènement des Capétiens. Donc il y a là un pinceau lumineux assez vif qui nous permet de faire sortir de l'ombre, de traverser en tout cas l'épaisseur des siècles à certaines femmes qu'on arrive à individualiser autant que faire se peut et auquel j'ai essayé sans naturellement violer sans faire d'anachronisme, essayer de faire apparaître la personnalité et le rôle propre.
En effet, vous écrivez, citant les sources, que les savants et les écrivains leur dédièrent à ces reines carolingiennes, donc leur dédièrent des traités, des poèmes en des termes souvent dithyrambiques. Donc, lorsque vous parliez en effet des mérovingiens, vous signaliez, vous précisiez la difficulté à avoir des sources. Là, vous avez de nombreuses sources.
Alors, nous avons de nombreuses sources pour une raison qui est toute matérielle, c'est que les supports sur lesquels les écrits nous sont parvenus sont passés du papyrus au parchemin. Et il n'est pas sûr que les reines mérovingiennes, Clotilde, les plus connues, Brunehaut et Frédégonde, bien connues par Augustin Thierry, peut-être encore Bathilde, parce qu'elle a été une reine sainte, patronne de l'abbaye de Chelles, qui n'est pas très loin de Paris. Mais ces supports ont disparu. Nous n'avons conservé à peu près aucun papyrus, et tous les documents qui concernaient ces personnes n'ont pas été tous retranscrits, loin de là, sur parchemin, à l'époque carolingienne. De sorte que on peut dire que la documentation sur les reines carolingiennes est 50 fois supérieure à ce qu'elle est sur les reines mérovingiennes. Il n'y a guère que sur Brunehaut, au tournant des 7e et 8e siècles, sur laquelle nous ayons des renseignements vraiment précis.
Alors comment faites-vous la part des choses? Parce que vous parlez de traités, de poèmes, d'écrits en des termes souvent dithyrambiques.
Il ne s'agit pas de choses, il s'agit de personnes. Alors je ne sais pas à quoi vous pensez, mais je vais dans les index des livres et de tout ce qui a été publié depuis maintenant deux siècles, d'abord par les Allemands, ensuite par les Anglais et pour finir par les Français. Et dans les index, je vois apparaître tous ces noms. Je me reporte, je me plonge, je lis. J'ai la chance de savoir le latin peut-être mieux que le français. Et donc, je suis à l'aise dans ces documents et je me promène. Quelquefois, c'est une littérature difficile. Les poèmes qui leur sont consacrés, et qui représentent des milliers, peut-être des dizaines de milliers de vers. Ne nous y trompons pas. Il y a plus de vers sur la reine Angelberge que sur Blanche de Castille. Et eh bien là-dedans, il est difficile de naviguer parce que c'est une poésie extrêmement complexe. C'est du Mallarmé du IXe siècle. Je ne suis pas là toujours très à l'aise, mais globalement, le fait qu'on ait consacré à ces personnes beaucoup de textes, quelquefois davantage que leur mari, dit quelque chose. Dit que d'une part, qu'elles le méritaient, d'autre part, qu'elles savaient les entendre, les comprendre et les apprécier.
C'est pour ça que vous citez Guillaume Apollinaire.
Je cite Guillaume Apollinaire parce
votre
que
livre.
La chanson du mal-aimé est quelque chose de magnifique. Oui. Moi qui sais des laits pour les reines, les complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves sur reines et la romance du mal-aimé. Moi qui sais des laits pour les reines, les laits, vous savez, ce sont les poèmes. Mm-hmm. Et donc Apollinaire savait des poèmes pour les reines, comme Jean Scott Érigène, dans les années 880, écrivait pour les reines carolingiennes.
Ces reines ont-elles eu une réelle influence dans l'histoire ? Ont-elles eu un rôle important qui mérite justement qu'on s'intéresse à certaines d'entre elles ?
La question que l'historien doit se poser, c'est que se serait-il passé si elle n'avait pas été là ? Bien, je crois que, sans dire que, comme le dit Cléopâtre, la face du monde en eût été changée, néanmoins, on sent presque physiquement quelquefois, mais en tout cas politiquement et idéologiquement, leur présence qui marque, qui opère des infléchissements dans les comportements, surtout à mesure que le mariage monogame, encadré par l'autorité ecclésiastique, les consacre comme des épouses de plein droit. À l'époque des Mérovingiens, et encore à la génération qui précède celle de Pépin le Bref, et même la sienne, bien le concubinage n'apparaît pas du tout comme une anomalie, même chez les rois. En revanche, à mesure que se déroule, qu'on avance dans le siècle, le 9e puis le 10e siècle, le mariage devient une affaire moins privée que publique, moins profane qu'ecclésiastique, participe donc de la politique, devient un investissement à la fois politique et économique, et surtout idéologique, qui fait que la femme est portée, en tout cas vis-à-vis de Dieu et de ses représentants, à égalité de cette manière, non pas pareil, mais égale au roi, leur mari, d'autant mieux qu'elle devienne l'épouse unique d'un roi unique.
Alors vous venez en effet nous raconter comment on est passé d'un système qui conjuguait concubine et puis épouse officielle au système de la monogamie, justement, sous quelle influence, pourquoi ça s'est d'ailleurs passé sous ces reines carolingiennes. En effet, est-ce que c'est l'influence de l'Église ? Est-ce que c'est l'évolution des mœurs ? J'avais bien entendu que vous abordez ça. En effet, ce sujet important dans votre livre, Laurent Thaïs, Reine carolingienne, que vous publiez aux éditions Perrin. Alors, ça concerne quelle période ?
Eh bien, ça concerne très exactement le milieu du 8e siècle, l'année 751, au moment où l'évêque Boniface, entouré d'autres évêques, consacre Pépin comme roi des Francs, prenant la succession de la dynastie mérovingienne qui s'était achevée dans ce qu'on a appelé beaucoup plus tard les rois fainéants, fainéants voulant dire non pas fainéants, mais incapables d'agir, parce que, en presque 300 ans, le moyen de pouvoir, le trésor dont ils disposaient, la façon dont ils rémunéraient des fidélités, dont ils pouvaient contrôler les territoires et les peuples, s'était amenuisé parce que des forces concurrentes avaient commencé à s'élever, plusieurs dynasties, dont l'une, celle qu'on a appelée les Pipinides, du nom du premier ancêtre Pépin de Landen, Pépin l'Ancien, père de Pépin de Héristal, lui-même père de Charles Martel. Cette dynastie a commencé à faire concurrence par le biais d'une magistrature exceptionnelle, qui est la mairie du palais. Ces maires du palais, peu à peu, ont cheminé au service du roi mérovingien, puis à côté de lui, puis devant lui, jusqu'à l'écarter. Jusqu'à l'écarter parce qu'ils exerçaient la réalité du pouvoir dans le royaume des Francs, et que, comme l'a dit le pape Zacharie, au moment où Pépin le Bref lui a fait demander ce qu'il penserait du fait que lui-même devienne roi à la place d'un mérovingien empêché, lui a déclaré « Il est temps maintenant que celui qui exerce le pouvoir, en fait, l'exerce en droit et en légitimité. » Et c'est ce qui s'est passé. Parler d'un coup d'État serait une terminologie trop moderne et contemporaine. Mais on dirait qu'un coup d'épaule final a été donné dans une porte déjà largement ouverte par Charles Martel, qui est un prince prodigieux, mais qui lui-même n'a pas voulu aller jusqu'à la royauté, le moment était encore prématuré, et il a poussé son fils, il a fait instruire d'ailleurs à cet effet, à Saint-Denis, pour pouvoir, le jour venu, qu'on sentait proche, accéder à une royauté qui, de surcroît, au lieu d'être une royauté que je ne dirais pas laïque, le terme n'aurait pas beaucoup de sens, mais qui n'était pas consacrée, a été consacrée, sacrée, par l'autorité ecclésiastique, à l'égal des évêques qui eux-mêmes sont consacrés et sacrés depuis l'origine.
Et comment s'est passée cette transition? Parce que on est surpris quand même de cette décadence du pouvoir mérovingien quand on passe à Clovis.
Oui,
et la manière dont il s'est imposé dans tout l'Occident, contre toutes les autres tribus, enfin barbares, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas. Et on est surpris qu'en l'espace de 3 siècles, ce pouvoir s'effondre. Et les rois mérovingiens...
Pour Napoléon III, il n'a fallu que 18 ans.
Oui, mais l'époque, ça s'est effondré dans une défaite militaire. Mais les rois mérovingiens étaient, il y avait aussi, c'était par descendance directe, ou est-ce qu'il y avait une élection qui confirmait l'élection par les ducs ou les pairs de France? Comment ça se passait?
Il a continué sous l'époque carolingienne, qui s'est affilié beaucoup à l'époque mérovingienne, a revendiqué les Mérovingiens les plus prestigieux comme des ancêtres, en particulier Clovis et encore Dagobert, au besoin en créant de fausses généalogies entre les Mérovingiens et les Carolingiens. Les Carolingiens ont commandé des généalogies pour les affilier aux Mérovingiens parce que Clovis était le premier roi réputé sacré, en tout cas baptisé, premier roi chrétien au sein des Francs, au sein de l'Occident. Mais, comme je le disais, la substance des Mérovingiens s'est épuisée. Elle s'est épuisée, je dirais, génétiquement, biologiquement. On avait de plus en plus de mal à avoir des garçons pour vous succéder, parce que les 4/5 des garçons à la naissance ne survivent pas plus de 10 ans. Et d'autre part, parce que leur capacité à gouverner s'était amoindrie à mesure que le contrôle des populations se faisait de plus en plus faible par un mouvement centrifuge qui faisait que plus on s'éloignait de Saint-Denis, de la région parisienne, de l'Île-de-France, et bien plus les princes locaux, les grands, qui avaient naguère été des fonctionnaires, prenaient leur autonomie, et certains parvenaient, c'est le cas des Pépinides, en concurrence avec d'autres, c'est le cas donc des Pépinides, à s'élever jusqu'au sommet de l'État et à prendre le contrôle de la royauté d'intérieur avant de l'incarner physiquement et idéologiquement.
Mais le premier d'entre eux, donc Pépin, mais c'est suite au travail, en quelque sorte préparatoire de Charles Martel, c'est ce que
énorme
vous expliquiez.
Voilà,
Charles Martel aurait pu lui aussi être sacré roi finalement, mais il agit.
C'était pas encore mûr.
C'était pas encore mûr. Et donc Charles Martel, mais il était donc maire du palais, mais son l'origine des Pépinides, ils étaient quoi? Ils étaient ducs. Vous utilisez souvent d'ailleurs dans votre livre, Laurent Thaïs, sur les reines carolingiennes, le titre de duc des Francs, etc. Et quel était son titre?
Alors, le titre de Charles Martel, c'était donc Major Domus, maire du palais, et peu à peu, Princeps Francomor, Francorum. Prince, Princeps, mais Princeps, c'était le nom que portait l'empereur Auguste à son avènement. Le prince, c'est le premier parmi les pairs. Mmh. Il était donc, il s'est intitulé, dans les 20 dernières années de sa vie, Prince des Francs. On l'a intitulé pour montrer qu'il était déjà sorti du lot des grands aristocrates, ce qu'on appelle des ducs. Duc veut dire simplement chef. Le duc, c'est quelqu'un qui mène ses contingents à la guerre. Le comte, c'est celui qui exerce la justice et qui recueille les impôts au nom du roi. Voilà la nomenclature, si vous voulez, la hiérarchie. Il y a des comtes, et parmi les comtes, il y a des ducs qui se détachent parce qu'ils sont parvenus à contrôler la chose militaire en même temps que le territoire sur lequel ils exercent leur domination.
Et le dernier roi mérovingien auquel succède, donc le premier roi carolingien avec Pépin le Bref en tant que fils de Charles Martel, et vous nous expliquez tout le travail qui a été fait par Charles Martel pour qu'il soit couronné avec le soutien du pape. Le fils, le dernier roi avait-il un fils ou au contraire il y a eu une extinction dont a profité Charles Martel pour installer son fils comment ça?
Je vais vous faire plaisir, le dernier... Peut-être vous de savoir, le dernier mérovingien s'appelait Thierry III.
Bon.
Et il a été Thierry IV. Je vous prie de m'excuser. Thierry IV.
C'est le dernier.
III, c'était le grand-père. Thierry IV, c'est le dernier. Il a été mis dans un monastère de façon tout à fait débonnaire parce que, dit l'historien carolingien qui veut donner un effet de contraste le plus puissant possible entre le mérovingien impuissant et le carolingien, le Pipini carolingien, qui lui détient la réalité du pouvoir. Donc il a déclaré qu'il n'avait plus qu'une paire de chevaux, une paire de bœufs et une petite maison pour s'abriter. Voilà, c'est tout ce qui restait à Thierry IV. On l'a débarqué, on l'a mis à, je crois que c'était à Saint-Denis, dans un monastère. On l'a tendu, comme on tombe volontiers les Thierry, qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Et on n'en a plus entendu parler. Donc, d'une certaine manière aussi, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, on a fait le silence sur les deux dernières générations de Mérovingiens, sauf pour dire qu'ils n'étaient plus en état de ne rien faire.
Mais il y a peut-être des descendants, ce fameux Thierry.
Nous descendons tous de la côte d'Adam, peut-être aussi de Thierry IV, mais nous ne connaissons pas.
Peut-être un Thierry V quelque part.
Nous ne connaissons pas de fils, si du moins il en a existé.
Sinon, ça serait.
Mais semble-t-il, ce garçon n'avait que 17 ou 18 ans.
Pépin, quand il a été couronné, il y a un choix par acclamation.
La procédure officieuse, la procédure officielle, commençons par elle, c'est que le Vox Populi, Vox Dei, c'est donc l'Assemblée Générale des Francs, des milliers de personnes, supposément, qui crient d'un seul coup « Vive Atrex, vive le roi !» en désignant Pépin. Bon, en réalité, parce que c'est la voix de Dieu qui s'exprime à travers la nation franque. Mais en réalité, ce sont 200 ou 300 personnes qui déjà ont été très, très travaillées au corps, qui sont réunies là et qui sanctionnent par des acclamations qu'on entend à l'oreille, qui sanctionnent la décision qui a été prise en petit comité. Oui. Voilà.
Alors, il y a, au début de votre livre aussi, vous évoquez les mémoires d'un certain nombre de reines mérovingiennes qui ont survécu, en quelque sorte, dans notre mémoire. Hein. Vous évoquez Clotilde, Bruno, Frédégonde, et puis Bathilde, vous avez évoqué la sainteté de Bathilde, mais vous dites que pour les carolingiennes, ça n'est pas le cas. Pour quelle raison? Pourquoi a-t-on si peu mémoire de ces reines carolingiennes?
Alors, les quatre reines que vous avez citées sont exactement celles que les Carolingiens ont tenu à récupérer. Clotilde, parce que c'est la mère, j'allais dire des batailles, c'est la mère de l'Occident, du royaume des Francs, puisque c'est de ces reins que sont sortis les rois chrétiens. D'autre part, c'est une reine sainte, mais sa sainteté n'a été acquise que par l'action des Carolingiens. Il en est de même pour Bathilde. Bathilde a été mise en exergue, elle a été réinstallée dans une nouvelle église à Chelles par la volonté du fils de Charlemagne, Louis le Pieux. Et un culte a été rendu à Bathilde, beaucoup plus sous les Carolingiens que sous les Mérovingiens. Et Bruno, Charles le Chauve, la désigne comme son prédécesseur au masculin.
Mais vous écrivez pourtant de la trentaine de femmes qui, en 9 générations successives, ces 9 générations donc de Carolingiens, couvrant 2 siècles, ont épousé un roi, voire un empereur, descendant direct de Charles Martel, la plupart demeurent inconnues. Est-ce qu'elles sont-elles les grandes délaissées de l'histoire? Plus que celles que vous venez d'évoquer, Bathilde et Clotilde, par exemple.
Si j'étais malicieux, ce que je ne suis dans aucune manière, je demanderais si tout le monde se souvient de Charles le Gros, de Zwentibold, de Lothaire III, de Louis V, et de tous ces rois carolingiens. On peut dire que l'oubli, ou en tout cas la faible connaissance, encore aujourd'hui, de ces personnages, atteint presque autant les hommes que les femmes, qui pourraient citer plus de 3 ou 4, 4 ou 5 rois carolingiens. Charlemagne, oui, Louis le Pieux, peut-être Charles le Chauve, Charles le Simple, parce qu'il était simple, et voilà. Donc c'est une période qui mérite d'être approfondie, beaucoup de très bons historiens et historiennes le font depuis une quarantaine d'années, mais il y a encore beaucoup de grains à moudre, avis aux amateurs et aux amatrices.
Ouais, d'abord, commencer par la lecture de votre livre.
Ça, je vous laisse
naturellement, Laurent Thaïs. Alors, comment l'avez-vous? Quel est le plan? Quelles sont les parties principales? Parce que vous n'avez pas adopté tout à fait un déroulé chronologique.
Non, parce que chronologiquement, il y aurait eu des contrastes trop forts entre des personnalités que nous connaissons, un peu Bertrade, beaucoup Judith, beaucoup Ermintrude, pour citer la première épouse de Charles Chauve, beaucoup la reine Gerberge, moins connue, mais épouse du roi Louis IV, au début du Xe siècle, très active, beaucoup de documentation. Et entre les deux, il y a 2 ou 3 reines dont nous ne connaissons même pas les noms. Donc l'effet de contraste aurait été trop fort, et en même temps, de répétition. Une fois que j'aurais expliqué comment une reine était sacrée, je n'allais pas recommencer pour les 7 ou 8 reines qui l'ont été. J'ai préféré choisir une thématique à laquelle je vous...
Alors ces thématiques principales, quelles sont-elles?
Les thématiques principales, c'est au fond, c'est de suivre la progression, la montée en puissance, en tout cas en influence, en rayonnement. Rayonnement est un terme que j'adopterai volontiers. En rayonnement de ses épouses de roi. Bertrade, Berthe, a son influence, on la voit, parce qu'elle ne vient pas de n'importe où, mais quand on arrive à la fin du IXe siècle, c'est-à-dire 150 ans plus tard, on s'aperçoit que, par exemple, l'impératrice Angelberge, épouse de l'empereur Louis II d'Italie, elle occupe un terrain, elle met à l'écart son mari, qui est d'ailleurs devenu débile à cause d'un accident, elle traite avec le pape, avec tous les rois contemporains, elle se fait de l'argent dans des proportions inimaginables, elle construit des abbayes, elle réconcilie des rois en guerre les uns contre les autres, elle préside des assemblées, elle frappe monnaie, bref, elle est devenue quelqu'un qui surpasse de beaucoup les rois ses contemporains. Donc il y a cette montée en puissance par le jeu des mariages et du mariage monogame, par le jeu aussi d'une culture acquise par les reines de plus en plus profonde. Les reines, autant que j'ai pu se voir, sont plutôt plus savantes que leurs maris. Tous les rois savent lire et écrire, mais nous avons quelques poésies écrites par l'impératrice Richarde, dont vous vous moquiez le prénom tout à l'heure.
Ah non.
Nous avons des traités qui ont été dédicacés à ces reines par de très grands savants et avec lesquels elle échange. Elles écrivent des lettres au pape qui leur répond de façon extrêmement courtoise et même respectueuse. Bref, elles montent en puissance.
Il ressort d'ailleurs de votre livre, Laurenté, c'est il y a une relation, la relation est importante entre ces reines et la papauté. Et l'Église, d'ailleurs.
Et l'Église, de façon générale, que le roi délègue à son épouse le lien avec le divin. Malgré tout, tous les rois sont presque tous les rois, pas tous, presque tous les rois carolingiens sont sacrés, la majorité des reines ne le sont pas. Donc, il leur manque cette capacité à conduire les peuples dans la Jérusalem céleste, à faire de... Elles ne sont pas, sauf exception, les ointes du Seigneur. Bien que quelques-unes, au moins une, aient été qualifiées comme cela par le pape. Mais malgré tout, on leur délègue les relations avec l'Église pour plusieurs raisons. La première, qui est une raison toute matérielle, c'est que les reines ne se déplacent pas. Elles sont sédentaires. Elles voyagent quelquefois, mais peu. Elles sont au palais. Alors que le roi est presque constamment, enfin largement, à la guerre, en voyage, en rencontre diplomatique, à droite, à gauche. Or, ce qui caractérise, qui devrait caractériser, ce qui caractérise en effet, l'institution ecclésiastique, c'est sa stabilité. C'est-à-dire le mot qui désigne même l'Église elle-même. Les ecclésiastiques, les clercs, surtout les moines, sont stables, ils ne bougent pas. Donc, pour avoir affaire à cette puissance, elle aussi considérable et de plus en plus considérable qu'est l'Église, eh bien, la stabilité des deux côtés est préférable. Parce que ce sont des soins presque quotidiens et des échanges de bons procédés qui se produisent entre l'autorité ecclésiastique et l'autorité royale, dont la conjonction fait la force de la royauté. Et la reine, par sa permanence, par sa culture, par la dévotion qui lui est supposée, les femmes sont réputées davantage pieuses que les hommes, eh bien, elles ont un lien particulier avec notamment les évêques et les grands abbés. Et là, on pourrait citer maints exemples de ces liens. Et quand des évêques veulent faire aboutir une requête auprès du roi, quand le pape lui-même requiert l'assistance contre ses ennemis de la royauté franque, c'est souvent par l'intermédiaire des reines qu'on accède au roi et qu'on emporte la décision.
Et il y a l'Empire carolingien, c'est a éclaté après Charlemagne. Vous commencez par ça, d'ailleurs, vous venez d'expliquer. Je comptais vous demander d'ailleurs pourquoi commencer votre livre par le partage justement de l'Empire de Charlemagne. En tout cas, l'Empire éclate, demeure, hein, puisque en effet, il y aura des empereurs qui se succéderont, mais il va y avoir des rois. Bien sûr, sur d'autres domaines qui composent ce domaine carolingien, est-ce que ça rend plus complexe justement l'étude de votre sujet, cette multitude justement de rois de ci, de rois de ça? Alors l'empereur, ça va pas clair, mais il y a plein de rois, donc il y a beaucoup de reines. Est-ce que ça complexifie l'étude? Est-ce qu'au contraire, on retrouve quand même des caractères communs à toutes ces reines, qu'elles soient de Francie, de Lotharingie, de...
Ça complique le travail. Mais ça le rend beaucoup plus intéressant. Si j'ai commencé par le partage de Verdun de 843, oui, peut-être une date dont les plus anciens d'entre nous se souviennent l'avoir appris à l'école, eh bien c'est parce que Charlemagne avait succédé à Pépin, Louis le Pieux avait succédé à Charlemagne, il n'y avait qu'un successeur, il n'y avait pas d'autre en course. Mais à partir de, 800, de la mort de Louis le Pieux en 840, il a trois fils. Et les trois fils, Lothaire Ier, Louis Germanique, Charles le Chauve, sont à égalité de droit. Et donc, il faut, à l'intérieur de cet empire, dont le concept, dont la notion, dont le rayonnement continue, tailler des royaumes à peu près égaux, on appelle ça le régime de la fraternité, ça dure une vingtaine d'années, avec beaucoup de secousses, mais de façon à ce que chacun soit roi à égalité à l'intérieur de l'Empire. L'Empire, c'est une notion abstraite et religieuse, relativement abstraite, et spirituelle, religieuse, alors que le royaume, c'est quelque chose de quasiment physique, en tout cas de très politique, et donc il y a des rois à l'intérieur de l'Empire, et comme chacun de ces trois rois a lui-même des enfants, eh bien, au fur et à mesure, il y a une progression arithmétique qui fait qu'on arrive à 5, 6, 7 rois concomitants dans le dernier tiers du IXe siècle. Après, les dynasties s'éteignent en partie. Par exemple, la dynastie carolingienne d'Italie a vécu jusqu'à la fin du IXe siècle et après ne s'est plus trouvé de successeur. Ça a été repris par une autre dynastie. Pour la royauté carolingienne germanique, c'est au début du Xe siècle que le dernier descendant de Louis le Germanique, celui qui avait reçu le royaume de Germanie en 843, s'éteint sans enfant. Il ne reste plus que le royaume des Francs de l'Ouest, la Francie, la future France, qui, elle, se maintient jusqu'en 987.
Et qui s'éteint aussi, alors, c'est parce qu'il n'y a pas de successeur non plus, Louis V s'efface accidentellement en 987.
Le dernier roi est un accident de chasse. Il a 19 ans. Il n'est pas... son épouse est parti, une dame beaucoup plus âgée que lui, c'est un mariage tout à fait trafiqué, et il s'est retrouvé sans femme et sans enfant, et il est mort d'un accident, et là, il avait un oncle qui a tenté de maintenir la dynastie carolingienne, mais à ce moment-là, comme ça s'était produit en 751 pour Pépin le Bref, le duc des Francs, Hugues Capet, était monté parallèlement à la descente de la dynastie carolingienne, si je me fais bien comprendre. Les derniers carolingiens perdent du pouvoir, perdent de la surface. En revanche, la dynastie des futurs capétiens, qu'on appelle les robertiens, monte. Et à un moment, le duc des Francs est supérieur au roi dans son pouvoir réel. Et du coup, on ajuste le pouvoir réel au pouvoir.
Même phénomène, mais comment peut-on monter, comment peut-on descendre ? On comprend sur la fortune, etc. Alors, duc des Francs, c'était le chef de guerre, c'était le chef des armées franques.
C'était des chefs de guerre.
C'était le chef des armées franques, Hugues Capet, pour qu'il soit duc des Francs.
Hugues Capet était la même chose que Charles Martel. Il était prince, duc et prince des Francs. Il conduisait les contingents à la guerre. Il suppléait le roi en tout. Il était le beau-frère de l'empereur de Germanie, Othon. Il avait acquis peu à peu des domaines par. Comment dire ? Ses ancêtres, deux de ses ancêtres avaient été rois, son grand-père et son grand-oncle. Et il avait reçu des délégations de pouvoir, son père et lui-même, Hugues le Grand, le père du Capet, et Hugues Capet lui-même, des délégations de pouvoir qui s'étaient appropriées. C'est comme si des préfets, des super-préfets aujourd'hui, disaient, le préfet de région dit, cette région, c'est moi qui commande. Et je fais un rapport au président de la République, au Premier ministre, une fois de temps en temps, je vais le saluer parce que c'est quelqu'un d'honorable, mais il n'a rien à voir avec l'exercice du pouvoir que je fais en son nom, mais que je fais à mon gré.
On a une extinction presque naturelle, en quelque sorte.
Ça a été la même chose pour les Capétiens, oui. Capétiens directs. Charles VI, oui, ça n'est pas bon. Charles VIII, en fait, etc.
Oui. Mais
toute demeure périt.
Oui.
La République athénienne, l'Empire romain, tout.
Y avait-il des liens de sang entre les Robertiens, donc Hugues Capet, et justement. Les rois carolingiens.
Considérablement, parce que la femme de l'avant-dernier roi était la belle-sœur du Capet, qui était elle-même, qui était lui-même le beau-frère de l'empereur Othon de Germanie. Tous ces gens-là, c'est parfaitement incestueux, je veux dire. En tout cas, c'est intra-familial. Et donc, ils se connaissaient dès la naissance. Emma, la reine, et Hugues Capet ont fait équipe ensemble. Et surtout, l'avant-dernier roi, Lothaire III, a été placé sous le tutorat du Capet. Et le tuteur a fini par écarter le disciple.
Alors, merci Laurent Tess, hein, de nous avoir expliqué devoir résumer cette période carolingienne qui s'étend donc entre 751 et 987 avec le partage donc de l'empire de Charlemagne. Vous commencez par cela en 843 donc parce que cela va multiplier bien sûr le nombre de reines, un peu plus de 30 reines que dont vous évoquez les principales naturellement dans votre livre Reines carolingiennes aux éditions Perrin. Alors le premier chapitre et c'est le premier thème, c'est la fabrique de la reine. Et là vous commencez aussi par une anecdote, par le rôle important justement de Bertrade, notamment vis-à-vis du royaume lombard et vis-à-vis du pape. Ah. Je vous laisse évoquer, et puis après donc vous allez nous parler en effet de Bertrade et puis des quelques autres de ces grandes reines que vous évoquez en effet dans ce chapitre.
Il faut en effet contextualiser, si j'ose dire, l'avènement de Pépin le Bref et donc de son épouse Bertrade, dite Berthe. Le contexte, c'est que la papauté à cette époque est en position de grande faiblesse, comme elle a été presque tout le temps jusqu'au XIe siècle. Et la pression exercée par les Lombards, qui sont c'est un peuple, c'est une nation qu'on appellerait barbare, qui s'est imposée en Italie et qui s'est substituée à Byzance, au pouvoir byzantin, dans les États pontificaux. Et ces Lombards, qui sont à peine chrétiens, qui sont chrétiens de fraîche date, d'une cinquantaine d'années, exercent une pression sur la papauté pour la contrôler entièrement. Et le pape Zacharie, ne pouvant plus se tourner vers Byzance, qui est très loin, qui a d'ailleurs beaucoup de difficultés elle-même, qui a perdu pied en Italie, cherche à se rééquilibrer du côté des Francs. Et toute l'action du pape Zacharie, de ses successeurs, Étienne II, Étienne III, Étienne IV, Adrien, a été de se tourner vers, de revendiquer le patronage lointain, mais efficace, de Charles Martel, prince des Francs, et de son successeur, le roi Pépin, qui, en effet, se sont appuyés sur l'autorité pontificale pour justifier la mise à l'écart des Mérovingiens. Et la reine Bertrade a œuvré dans ce sens en tentant de réunir la dynastie lombarde et la dynastie carolingienne, la dynastie franque, sous le contrôle des Francs, en mariant ses fils, notamment Charlemagne, Charles, à une princesse lombarde qui s'appelait Désirée. Mais ce mariage a été très mal vu par les Francs eux-mêmes, qui ont dit, et le pape l'a dit aussi plus tard, il ne faut pas se marier avec des étrangères. Il faut se marier entre soi. D'ailleurs, Charlemagne et son frère Carloman étaient déjà mariés à des Francs. Donc Charlemagne a répudié celle qui était supposément sa femme, qui s'appelait Imiltrude, déjà père d'un fils, et il s'est marié avec cette nommée Désirée. Est-ce que c'est un surnom, est-ce que c'est un nom, on n'en sait rien, mais le désir n'a pas duré longtemps, puisqu'il l'a répudiée au bout de quelques mois. Mais du coup, la reine Bertrade a subi une sorte de revers politique, mais elle s'est rattrapée par la suite en maintenant un préceptorat vis-à-vis de ses petits-fils très efficace.
Et là, à travers cette anecdote, ce que je souhaitais montrer, c'est le rôle justement qu'a joué Bertrade.
Bertrade a exercé une sorte de régence. Elle a survécu une quinzaine d'années à son mari. A exercé une sorte de régence sur ses deux fils, Charlemagne et Carloman. Charlemagne a pris le pas sur Carloman, l'a mis de côté, et a été le seul héritier. Mais pendant quelques années, comme il arrive souvent, comme c'est arrivé par la suite, la régence a été exercée par Bertrade, comme Brunehaut l'avait exercé sur ses petits-fils et même arrière-petits-enfants.
Alors nous allons voir avec vous, parce que c'est la suite de ce chapitre, effectivement, à quoi obéissaient ces unions, le choix des reines. Vous nous avez expliqué à l'instant ce que souhaitait faire Bertrade, et vous avez aussi précisé que les Francs n'appréciaient pas qu'on aille chercher les reines, hein, en dehors, en effet, de l'Empire des Francs, sauf à la fin de leur dynastie. Là, ils vont aller les chercher. Mais vous rappelez que Clotilde, par exemple, la première épouse, enfin, l'épouse de Clovis, pardon, elle était burgonde.
Peut-être la seconde épouse.
Peut-être la seconde. Oui. Elle était burgonde.
C'est-à-dire qu'une des différences entre les reines carolingiennes et les reines mérovingiennes, c'est qu'en effet, les mérovingiens sont allés recruter très fréquemment des princesses étrangères, si on peut dire. Donc Clotilde, vous l'avez rappelé, burgonde, mais aussi d'autres reines comme Galaiswinte et Brunehaut, qui sont des Visigoths, des Espagnols, et aussi Bathilde, qui est d'origine anglo-saxonne, qui était peut-être une servante. Donc les mérovingiennes ne se souciaient pas de recruter de leur aristocratie, ils ne se souciaient pas non plus de recruter des aristocrates elles-mêmes. Ils allaient prendre leurs épouses. Frédégonde était une simple servante. Alors que les Carolingiens font très attention de nouer des alliances dont ils estiment qu'elles leur seront profitables. J'écarte les sentiments parce que, à une ou deux exceptions près, nous ne savons pas quels étaient les sentiments qui pouvaient unir le couple conjugal. Ça ne veut pas dire que ces sentiments n'existaient pas. Mais la rhétorique de l'époque ne permet pas de les apercevoir. Donc, ils allaient choisir à l'intérieur de leur aristocratie pour essayer, au fond, d'éviter ce qui avait réuni les Mérovingiens, c'est-à-dire la montée de dynasties concurrentes, en se les affiliant, eh bien, on permettait de conforter l'unicité du trône, l'unicité du royaume, en évitant des branches collatérales qui se seraient venues se greffer sur la tranche principale et qui auraient fini par faire concurrence, ce qui a fini par se produire, mais très tard, en 987. Et donc, les mariages sont calculés pour aller prendre des princesses ou des comtesses, enfin, des jeunes filles de très, très, très bonne famille, qui apportent d'abord de l'argent, des abbayes et des territoires, des charges, des contingents guerriers, et tout ce qui fait, au fond, tout ce qui vient en appui à la puissance royale. Et aussi, et avant tout, susceptible et très fermement invité à avoir le plus d'enfants possible.
On est très surpris à cette époque. Vous avez un changement important, d'ailleurs, va se produire, qui est piloté par Rome. Vous parlez du concile à Rome provoqué par Lothaire Ier en 826, justement sur la monogamie. Vous parlez de répudiation, de concubine, de déjà marié, déjà père, etc. Comment, justement, plutôt ma question, c'est chez les Carolingiens, qu'est-ce que c'est qu'un mariage est légitime et quelle est la latitude finalement des rois ou des parents de rois, puisque vous avez parlé là du rôle de Bertrade qui voulait que Charlemagne épouse donc une princesse lombarde en répudiant son épouse légitime. Quelles étaient les règles et pourquoi ces règles justement vont-elles changer?
Alors ces règles. À l'époque, au moment de Pépin le Bref, au moment du mariage de Bertrade avec Pépin, qui se produit 10 ans avant l'avènement de la royauté, on ne sait pas exactement la date, ces règles ne sont pas fixées. Il y a des modèles, évidemment, des modèles bibliques. D'ailleurs, des modèles bibliques qui, quelquefois, quand on voit du côté de David et Bethsabée ou du côté de Salomon, ne sont pas toujours non plus exemptes de concubinage. Mais ces règles ne sont pas fixées. Parce que l'Église ne s'en est pas encore emparée, le mariage, à l'époque, jusqu'à la fin du 8e siècle, et encore dans les premières années du 9e, le mariage n'est pas un sacrement, il sera beaucoup, beaucoup plus tard, mais il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de théologie, il n'y a pas de texte canonique, véritablement, sur le mariage. Le prêtre ne s'occupe pas du mariage. Simplement, il peut le bénir à la demande, et il peut le prier pour lui. Mais le mariage se fait en dehors du prêtre, et a fortiori de l'évêque. Mais peu à peu, à mesure que la culture, que la Renaissance carolingienne opère un retour au texte des conciles, des premiers conciles chrétiens, des pères de l'Église, saint Augustin notamment, mais aussi beaucoup d'autres, saint Jérôme, à mesure qu'on récupère, qu'on réinterprète, qu'on recopie, qu'on réédite tous les grands textes de la patristique et biblique, eh bien on s'aperçoit que le mariage est constitutif d'une attire la bienveillance de Dieu sur ceux qui le contractent. Et du coup, aussi parce que une sorte d'anarchie politique et sociale se produit, si les unions peuvent être tirées à hue et à dia, rompues aussitôt que contractées, eh bien, il s'ensuit un désordre politique et social qui rend le gouvernement des peuples de plus en plus difficile. Or, comme la mission du roi sacré, qui est maintenant loin de Dieu, est de conduire le peuple vers la Jérusalem céleste, vers le paradis, vers la sainteté, si c'est possible, eh bien, il convient que le prince lui-même se comporte selon ses prescriptions. Alors, le mariage, les règles du mariage, c'est le consentement des époux, des deux, à égalité. On sollicite le comportement de l'épouse autant que du mari. L'accord paternelle, l'autorisation paternelle, la constitution d'une dot, c'est-à-dire ce que la femme apporte au mari, et la constitution d'un douaire, c'est-à-dire ce que le mari apporte à son épouse, et puis, capitale, la consommation du mariage. sans la consommation du mariage, il n'y a rien de fait. C'est un principe de dissolution immédiat. S'y ajoutent très discrètement les degrés de parenté. En réalité, si on avait observé les degrés de parenté canoniques, c'est-à-dire jusqu'au septième collatéral, eh bien personne n'aurait jamais pu se marier parce que tous ces gens se marient dans un vivier qui est extrêmement restreint, quelques centaines d'individus. Mais les quatre autres prescriptions que je viens de dire, celles-là sont absolument décisives. En revanche, une cérémonie ecclésiastique n'est pas requise.
Alors, on est surpris parce que il ne faut pas faire bien sûr d'anachronisme, mais c'est quand même assez tardif, c'est seulement au 9e siècle. C'est l'archevêque de Reims, Ingmar, l'une des autorités les plus considérables d'Occident, écrivez-vous, qui a récapitulé donc en 860 les conditions du mariage chrétien, ce qui est assez tardif. C'est vraiment l'Église qui a été...
Je ne dirais pas que c'est très tardif, cher Thierry Delcourt. On estime que l'Occident devient chrétien à partir du 6e au 7e siècle.
Oui.
Le christianisme est encore n'est pas une idée neuve en Europe. Mais je ne jurerai pas qu'à l'époque de Pépin le Bref, la majorité de la population soit chrétienne. Il reste des poches énormes d'un christianisme extrêmement superficiel, d'un paganisme sous-jacent et même surjacent, si je puis m'exprimer ainsi,
oui.
De sorte que l'Occident chrétien, l'Occident carolingien, est encore une terre de mission. Les Scandinaves ne sont absolument pas, et tout ce qui est à l'est de l'Elbe, pas non plus, les Bulgares, les futurs Russes, Ukrainiens, c'est le 11e siècle. Donc là, on est encore en terre de mission.
Mais les Francs sont chrétiens, depuis Clovis.
Les Francs sont chrétiens, parce que pour être chrétien, il suffit qu'on le dise. Donc,
oui.
si le roi, évêques, et les personnages, l'intelligentsia, pour employer un mot qui n'est pas de circonstance, si les élites, les cadres, disent que les Francs sont chrétiens, et que d'ailleurs le Christ, la nation qu'il préfère, c'est celle des Francs, vive le Christ qui aime les Francs, hein, c'est une proclamation, quand on proclame le roi, on dit vive le Christ qui aime les Francs, eh bien, il y a une part de rhétorique.
C'est le sacre des rois ou des empereurs qui provoque ce changement, et qui définit en quelque sorte les conditions du mariage chrétien.
Il lui donne de la consistance,
oui,
et de la validité. À partir de Louis le Pieux, du fils de Charlemagne, Charlemagne a eu quand même 5 épouses. Une fois, deux en même temps, et puis il en a répudié plusieurs, il a été veuf plusieurs fois, il a eu aussi d'autres femmes en même temps, bon, puisqu'il a eu une multitude d'enfants. À partir de Louis le Pieux, qui mérite son nom, eh bien, le mariage est monogame. Et quand il ne l'est pas, il y a eu des tentatives du petit-fils de Louis le Pieux, Lothaire II, pour changer de femme, et ça ne marche pas, ça ne marche plus. La papauté, les évêques, et je dirais les croyances ambiantes, l'état d'esprit, l'atmosphère générale, font que un mariage ne peut être rompu que dans des conditions extraordinaires.
Qui sont l'adultère et qui va être évoqué à plusieurs reprises, nous allons le voir avec
pas
vous.
Pas même l'adultère.
L'adultère n'est pas une raison de dissolution des liens du mariage.
Il peut être une raison de séparation, mais l'époux adultère ne peut pas se remarier.
Oui.
Ah. Et l'époux d'adultère, celui qui l'a commis et celui qui l'a subi.
Alors, ces décisions concernant, en effet, la monogamie, la définition du mariage légitime, cela va-t-il changer la condition des reines carolingiennes? On l'imagine.
Considérablement.
Oui.
Et les reines carolingiennes, également, modifieront la condition du mariage chrétien. Parce que ce sont elles, évidemment, qui ont le plus intérêt à ce que le mariage soit indissoluble et soit unique, soit monogame. Parce que quand elles perdent le statut de reine, je ne dis pas qu'elles perdent tout, mais si elles le perdent par répudiation, elles perdent tout. Si elles sont veuves, c'est autre chose. Mais même quand elles sont veuves, leur situation peut être difficile. Donc la reine a tout intérêt à se montrer attachée à la fois à son époux, à remplir ses devoirs, mais aussi à exercer ses droits. Et ses droits sont de plus en plus nombreux. Le roi ne peut plus arracher ses biens propres à sa femme pour les donner à quelqu'un d'autre, alors qu'à l'époque de Charlemagne, de Pépin le Bref, on n'y pensait même pas. Donc elle a une consistance, une personnalité juridique, politique, spirituelle, intellectuelle et physique de plus en plus forte.
Est-ce pour cela que le sacre a pris tant d'importance, finalement, dans les royaumes francs? On pense à Jeanne d'Arc, hein, qui veut absolument faire sacrer, et en effet...
Mais c'est plutôt le sacre des... Oui, naturellement, le roi sacré, il est
ça sorte, lui impose quand même
une
conduite.
Il est une sorte d'évêque laïque,
oui,
pour prendre une espèce de comme ça d'oxymore. Donc il doit se comporter chastement comme un évêque, mais il doit aussi copuler pour fournir des descendants.
Pour fournir pour la descendance.
Mais il ne peut pas s'affranchir, ça n'est plus le règne du bon plaisir. Ou en tout cas, il faut qu'il trouve son plaisir autrement.
Alors nous allons faire une petite pause, un message de la radio. Écoutez, Laurent Saïs et puis nous écouterons Antonio Vivaldi, vous allez nous expliquer pourquoi, en effet, ce choix, le deuxième mouvement du concerto pour deux mandolines. Nous avons compris de cette première partie discussion pourquoi les reines carolingiennes vont acquérir une importance réelle et une liberté d'action. Nous allons voir après cette pause avec vous où elles pourront justement l'appliquer, mais en effet, l'évolution des mœurs, et notamment des mœurs de l'empereur et du roi sous l'influence de l'Église, le sacre proprement dit, change complètement en effet leurs conditions. Et puis il y a aussi autre chose qui va, le sacre, il y a le sacre du roi, mais il y a aussi le sacre de la reine. Et donc après cette pause, eh bien, vous allez, si vous voulez bien, Laurent Hesse, nous entretenir sur le sacre de la reine, parce que chez les mérovingiennes, personne n'a été sacré. Et donc chez les carolingiennes, que pour la première fois, on assistera au sacre. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, et puis là encore, les conséquences pour ces reines carolingiennes. Alors nous écoutons donc d'abord le message de la radio. Antonio Vivaldi, c'est un compositeur que vous aimez particulièrement.
Le prêtre roux, vous savez, c'est comme qu'il s'appelait.
Le prêtre roux.
Oui, c'est un prêtre vénitien qui a composé énormément et qui a été imité par Jean-Sébastien Bach, qui, pour le protestant que je suis, est aussi un maître spirituel, mais surtout un maître musical.
Oui.
Et ce deuxième mouvement est très mélancolique. Et chacun de nous a ces moments de mélancolie, où les choses s'adoucissent et s'attendrissent. Et je trouve que bien, le jour où je mourrai, ce qui ne manquera pas de se produire, j'aimerais bien qu'on le joue.
Donc vous jouez, c'est...
Oui, qu'on joue sur mon lit de mort ou après.
Bon, dans très longtemps.
Ce deuxième mouvement.
Après de nombreuses émissions avec vous, Laurent Saïsa, nous ne sommes pas pressés.
Oui.
Nous ne sommes pas du tout pressés. Et les auditeurs de Radio Courtoisie non plus. Alors nous écoutons en effet ce message et Antonio Vivaldi.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
chers auditeurs de Radio Courtoisie, après avoir écouté ce superbe extrait musical, le deuxième mouvement du concerto pour deux mandolines, comme dit Laurent Theis, ce sont deux mandolines qui se répondent, qui discutent quasiment entre elles, d'Antonio Vivaldi. Eh bien, nous poursuivons notre conversation à l'occasion de la publication justement du livre de Laurent Theis, Reine carolingienne, aux éditions Perrin. Sont une trentaine de reines, nous a-t-il expliqué, durant ce succès, durant cette période complexe, parce que en effet, l'Empire carolingien de Charlemagne a été partagé, et cette période couvre quasiment trois siècles, 751-987, enfin deux siècles et demi plus précisément. Et ce que nous explique Laurent Theis, c'est que les liens qu'il y a entre ces dynasties carolingiennes et notamment les liens entre ces reines carolingiennes et la papauté et les ecclésiastiques aboutissent à des modifications très importantes qui auront des conséquences réelles sur la vie de ces reines, sur le pouvoir de ces reines, et bien notamment, nous avons terminé cette première discussion par cela, cette la monogamie et les conditions du mariage chrétien, ce qui va donner en effet une stabilité importante aux reines carolingiennes. Et l'autre aspect, Laurent Theis, que vous développez aussi dans votre livre, qui est extrêmement important et qui est nouveau, et la question que je vous posais d'ailleurs, pourquoi ça apparaît avec les carolingiens, pourquoi ça n'était pas le cas avec les mérovingiens, ce sont les sacres. Mais les mérovingiens n'étaient pas sacrés, ça commence seulement avec les carolingiens.
Oui, le premier sacre, eh bien celui de 751, qui a été renouvelé en 754 par le pape lui-même, qui est venu à Saint-Denis sacrer une deuxième fois Pépin le Bref, et en même temps d'ailleurs, ses deux fils, Charlemagne et Carloman, et bénir, une bénédiction particulière, la reine Bertrade.
Alors c'est une bénédiction, ce n'est pas un sacre.
Ce n'est pas un sacre pour Bertrade.
Oui.
Le sacre viendra plus tard pour d'autres reines. Le sacre n'existe pas sur les Mérovingiens parce que les Mérovingiens n'avaient pas besoin de justifier ce qu'on appellerait un coup de force ou un coup d'État par une consécration. Pépin le Bref a jugé souhaitable de se faire sacrer pour s'inscrire dans une autre filiation qui est la filiation biblique. Vous savez que les rois bibliques, que David, que Salomon... David par Samuel, que Salomon ont été des rois sacrés. Eh bien, le roi Josias aussi. Et donc, pour trouver une légitimité qu'ils n'avaient pas dans la succession dynastique, puisque les Mérovingiens avaient disparu, eh bien, cette légitimité a été trouvée dans un geste sacramentel qui plaçait le roi un pied sur terre, enfin les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Donc à la jointure de la terre et d'être désigné directement par la Providence, ce qui n'était pas du tout le cas des rois mérovingiens, dont la légitimité tenait à leur filiation et aussi à leur épée, à la capacité de se faire respecter.
Comment a-t-on inventé, ce n'est pas le terme propre, mais c'est de la liturgie du sacre, la cérémonie du sacre, et notamment
on avait un exemple,
le fameux Saint-Crème. Comment cela a-t-il été créé, mis au point?
On avait un exemple avec les derniers rois visigothiques, les rois d'Espagne du visigothique, qui eux se faisaient sacrer. Et on avait conservé dans les traités patristiques, dans la littérature des grands chrétiens des premiers siècles, la nécessité de ce sacre davidique. Donc, à mesure qu'on redécouvrait la religion chrétienne dans ses fondements, eh bien, la personne de David a été fortement sollicitée, et par rapprochement, le sacre a été introduit en le démarquant très faiblement d'ailleurs du sacre de la consécration épiscopale, puisque les évêques, dès l'origine, c'est difficile à voir, mais au fond, dès le 5e siècle en tout cas, étaient sacrés par un geste, par cette huile, c'est-à-dire un mélange d'huile d'olive et de gomme aromatique, dont on enduisait leur tête, et pour les rois, leurs membres, jusqu'à toucher sept fois, selon le septenaire du Saint-Esprit, à toucher sept fois leurs membres pour introduire la puissance divine, comme un magnétiseur, si je puis dire, introduire la puissance divine dans leur corps, et dans leur tête.
C'était toujours un évêque ?
C'était toujours un évêque. C'était le fin du fin, c'était le pape. Donc Pépin le Bref a été sacré une deuxième fois par le pape. Louis le Pieux et son épouse Ermengarde ont été sacrés à Reims, en 816 par le pape. Et Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, a été sacré à Rome, comme l'avait été son grand-père, par le pape.
Donc Ermengarde, c'est la première reine carolingienne à être sacrée.
Ermengarde, donc la belle-fille de Charlemagne, si je peux dire, puisque c'est l'épouse de Louis de Pieux, a été la première reine sacrée, consacrée, et en même temps nommée impératrice.
Comment se passait la cérémonie? Est-ce que c'est comme à Byzance? Vous le rappelez, à Byzance, le mariage avec un empereur était suivi du couronnement de la nouvelle épouse par son mari. Est-ce que c'est comme Bonaparte, Napoléon, qui pose la couronne sur son épouse? Comment ça se passe, le sacre d'une reine?
On en a une description, mais on n'a pas les photos. Donc, il est à penser que c'est l'évêque, ou l'archevêque, ou le pape, en tout cas le dignitaire ecclésiastique, qui pose après le roi la couronne sur la tête de l'épouse, qui lui touche la tête avec de l'huile sainte, qui n'est pas l'huile du sacre du mari. C'en est une autre, qui est moins consacrée. L'huile du mari, si je puis dire, elle est conservée traditionnellement, dit-on, à Saint-Rémy de Reims, parce que c'est avec cette huile que Clovis a été non seulement baptisé. Mais sacré, dit-on, il n'a pas du tout été, mais sacré, dit-on, on a assimilé au 8e siècle, au 9e siècle, par Akbar de Reims dont nous parlions, on a assimilé le couronnement, le baptême, pardon, au et sacre. Le sacre. Mmh. On a dit que c'était la même opération, du Saint-Esprit.
Mais ça n'a pas été repris pour les rois suivants, les rois mérovingiens suivants.
Jamais.
Seul Clovis, en effet, donc les Carolingiens.
A été baptisé, ouais. Et les autres aussi. Mais le baptême de Clovis était important, voilà, parce que c'était le premier de la dynastie. Mais le baptême a été inclus dans le sacre au 9e siècle pour montrer que les rois carolingiens héritaient des grâces, si je puis dire, des charismes du premier mérovingien, redoublés par le sacre. Et donc c'est une huile spéciale pour le roi, c'est une autre huile moins consacrée pour la reine, et l'évêque met sa main sur sa tête, enduite d'huile, et dit « Je te bénis, tu es désormais loin du Seigneur ». Et il y a des prières pour qu'elle se reproduise, pour qu'elle soit semblable à Rebecca, à Sarah, et à toutes les épouses vétérotestamentaires qui ont honoré les Hébreux, et qu'elles imitent les saintes femmes, et qu'elles aient beaucoup d'enfants.
Qui sont en quelque sorte les modèles présentés par l'Église pour la reine ou l'impératrice.
Judith de l'Ancien Testament, naturellement, toutes les autres, Rebecca, Sarah...
C'est sacre, sacre du roi, sacre de la reine, c'était particulier aux Carolingiens, en Occident.
C'était particulier, oui, il n'y a aucun autre sacre connu en Occident. Il y a eu des tentatives d'imitation plus tardives dans la royauté anglo-saxonne. À la fin du 9e siècle, le roi Saint Alfred, je crois, mais ça n'est pas ma spécialité, a été sacré. Mais ce sont les rois carolingiens qui ont introduit cette cérémonie qui ensuite a diffusé dans tout l'Occident, puisque ça s'est répandu aussi dans l'Empire germanique et dans les royautés scandinaves.
Ces reines recevaient une formation particulière?
Alors, les reines ne recevaient pas une formation en tant que reines, puisqu'on ne savait pas.
Qu'elles seraient reines,
oui. Parce qu'elles deviennent reines généralement en moyenne à 14 ans. Mais les filles de grands aristocrates reçoivent une éducation particulière. D'une part, parce que ça peut toujours se produire, qu'elles soient repérées, sélectionnées, et mises dans le lit du roi, et puis d'autre part parce qu'elles sont généralement aussi destinées à fournir des abbesses et des chefs de communautés de femmes qui sont nombreuses et de plus en plus nombreuses dans la période carolingienne. Et donc, quand ces femmes ne sont pas reines ou ne sont pas princesses, elles sont volontiers abbesses. Et dans tous les cas, on estime qu'il faut cultiver les épouses parce que c'est leur donner accès aux Saintes Écritures et par là contracter une union aussi forte que possible, entre l'autorité ecclésiastique, entre l'Église et la royauté, par leur intermédiaire. Elles ont des fonctions de médiatrices, et on ne peut pas être médiatrice n'importe comment.
Je recherche, Laurent Hess, vous citez cette reine dans votre livre, qui a écrit justement un manuel d'éducation, qui paraît-il est formidable, vous en faites l'éloge.
Non, c'est un abbé qui lui a fourni un manuel d'éducation.
Ce n'est pas elle qui l'a écrit.
Non, nous n'avons pas de...
Mon Dieu, je me trompe alors.
Mais écoutez, vous relirez. Ou alors je me suis mal exprimé dans mon livre, c'est possible. Oui. Mais c'est une... Il y a plusieurs reines qui ont reçu des manuels d'éducation. Il y en a une qui est la reine Judith, qui par l'évêque Friculf, si je me souviens bien, l'évêque de Lisieux, a été formée pour instruire son fils Charles le Chauve, donc a reçu des instructions d'un évêque pour le faire passer dans l'éducation. Et puis, il y a aussi d'autres reines qui ont reçu des manuels d'éducation pour les faire servir à l'éducation des princes royaux.
Est-ce que certaines d'entre elles ont écrit ?
Alors, certaines d'entre elles ont écrit des lettres.
Oui.
En tout cas, les ont dictées. On n'a aucun manuscrit authentique, hein, évidemment, de l'époque. Mais on sait qu'elles ont écrit, on sait qu'elles ont répondu. Il y a eu des échanges de lettres, notamment avec les papes, parce qu'elles répondaient aux papes, ou leur écrivaient directement. Elles écrivaient à des abbés et à des évêques. On a conservé aussi une petite poésie de l'impératrice Richarde. Quatre vers que je serais capable de vous citer, je ne les ai pas appris par cœur, mais elles savaient écrire, et elles étaient... D'ailleurs, les éloges et dithyrambes dont elles étaient abreuvées par centaines, par milliers de vers, par les intellectuels contemporains, signalent qu'elles sont poétesses, qu'elles sont musiciennes, qu'elles font de la haute couture, qu'elles font de la broderie, qu'elles savent tout faire de leurs mains et de leur esprit, et notamment qu'elles sont férues de poésie et également de traités savants, de théologie. Elles ont une culture théologique forte. On voit par exemple la sœur de Charlemagne qui écrit à un grand abbé, l'abbé Saint-Martin de Tours, en disant « J'ai lu Saint-Augustin, il y a un passage qui ne me paraît pas très clair. Est-ce que, père abbé, tu peux nous expliquer par un petit traité, à ma sœur et moi, ce qu'il en est exactement, parce que ce que dit Saint-Augustin ne nous convient pas. » C'est pas tout le monde qui a lu Saint-Augustin.
Oui, c'est quand même un certain niveau intellectuel, voilà. En effet. Mmh. Oui. Alors nous avons des questions d'auditeurs, et puis après ces questions, si vous voulez bien, Laurentès, il va nous rester un tout petit quart d'heure, c'est d'évoquer, en effet, l'action de ces reines. Dans quel domaine pouvait-elle réellement agir ? C'est fait l'objet, bien sûr, d'un chapitre que vous avez intitulé dans votre livre « Agir en reine ». Et puis, après nous avoir expliqué, en effet, quelle pouvait être leur liberté d'action, en quelque sorte, eh bien, évoquer peut-être la vie d'un choix particulier de reine qui vous touche, et que, tel que vous l'évoquez d'ailleurs dans votre livre Reine carolingienne, Berthe, Hildegarde, Judith et les autres, 751-987, que vous publiez aux éditions Perrin. Les questions d'auditeurs, les évêques carolingiens furent-ils des précurseurs dans l'édification de l'architecture religieuse dans les cités de la Gaule ?
Gaule est en effet le mot qui était employé à l'époque. On dit pas encore, on dit très peu Francia, on dit encore Gallia surtout. Chez les intellectuels qui veulent faire du Tacite ou du Sénèque. Et naturellement, ils ont beaucoup contribué. Il y a plusieurs vagues de construction religieuse ecclésiastique en Occident. Il y a une première vague mérovingienne, assez importante, notamment la première église de Saint-Martin de Tours, la première église Sainte-Geneviève au sommet de la montagne du même nom, hein, et beaucoup d'autres. Cette vague a été recouverte par une deuxième vague de construction carolingienne, avec des dimensions beaucoup plus grandes. Beaucoup d'églises ont été soit agrandies, beaucoup, par exemple l'abbaye de Chelles, justement, qui avait une seule nef et qui en a eu trois au début du IXe siècle. Saint-Martin de Tours a été également agrandi, Saint-Denis a été lui aussi développé. Il y a eu des réaménagements très importants, des constructions de cryptes. La crypte n'existait pas à l'époque mérovingienne. Elle commence à se développer beaucoup à l'époque carolingienne. Et le plus bel exemple qu'on connaisse, c'est la crypte de Saint-Germain d'Auxerre, dont on voit encore les peintures signées par l'artiste telles que Charles Chauve les a vues en 850. Et puis, de nouvelles constructions ont eu lieu, notamment dans les terres conquises et évangélisées à l'Est, hein, en Germanie, au-delà du Rhin, vers la frontière de l'Elbe. Là, beaucoup a été construit, aussi vers le Nord. L'évangélisation, la conquête, s'est faite vers le nord et vers l'est. On peut dire que le sud des royaumes était fortement équipé, jusqu'à la Loire, la Seine également. Au-delà, on a beaucoup construit. Mais oui, notamment Hincmar a été un grand constructeur ou réaménageur de tout l'ensemble ecclésial, de Reims, notamment Saint-Rémy de Reims, entièrement réaménagé, et la cathédrale elle-même, qu'il a fait ornementer, notamment d'une belle statue de Charles le Chauve.
Hincmar, c'est le grand évêque de...
Hincmar, c'est le grand évêque archevêque qui domine véritablement entre la deuxième moitié du 9e siècle et qui a laissé des milliers de pages, pas des centaines, des milliers de pages dont beaucoup n'ont pas encore été véritablement traduites et qui est un peu la somme de tout ce qu'on peut connaître au Moyen-Âge dans tous les domaines. Donc Hincmar, c'est une sorte de génie. C'est un bossuet à la puissance 10.
Il n'a pas été béatifié ?
Si, tous les grands évêques...
Tous ont été...
Non, ils ne sont pas, parce que c'est la rumeur publique qui béatifie. La procédure de canonisation n'existe pas. C'est la rumeur publique qui dit, il y a un miracle attribué au tombeau de l'évêque de Reims-Hincmar, eh bien, il est reconnu comme ça, un culte s'établit, avec des processions, avec... Et c'est tous les saints jusqu'au XIe siècle sont des saints, comment dirais-je, qui sortent du terrain. Mais Rome n'y est pour rien.
Mais Bathilde, par exemple, dans
l'une des
dernières reines
mérovingiennes... Presque aussitôt après sa mort.
Comment ?
Presque aussitôt après sa mort, il y a eu un miracle.
Donc c'est populaire, c'est un mouvement populaire.
C'est populaire.
Mais tout ça a été après validé par l'Église, en quelque sorte, lorsque...
C'était validé par le biais de ce qu'on appelle les hagiographies, c'est-à-dire le vide saint. Quand on écrit la vie de Bathilde, eh bien, quand un évêque ou un abbé écrit la vie...
Ça suffit.
Le fait que la vie édifiante qu'il nous propose par la géographie constitue en soi le passage à la sainteté, d'autant qu'il y a toujours quelques miracles à la clé. Toujours.
Il faut toujours des miracles. Mais alors, il suffit d'avoir quelqu'un qui... Si on paie quelqu'un pour nous faire une superbe géographie après sa mort...
je vous renvoie à votre conscience.
non, mais c'est pas du tout une suggestion que je fais pour moi. Mais à l'époque, il y avait un certain nombre d'agiographies, en effet, vous le précisez, donc j'imagine que ce sont peut-être des pratiques qui devaient être...
Généralement, c'est le monastère dont la sainte a été la patronne. C'est le monastère qui est le groupe d'influence qui dit « Notre patronne était une personne excellente, nous avons écrit sa vie, elle est sainte. »
D'accord, oui.
C'est un groupe de pression, si vous voulez. Alors, j'en ai rien à voir. Mais c'est un groupe de pression en disant, pour consacrer un monastère, si on veut que le monastère de Chelles soit réputé le plus puissant d'Occident, il faut que la fondatrice soit sainte. Sinon...
Et Ankh-Morn a été considéré comme saint, lui aussi.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas par là qu'il est resté. C'est par son œuvre.
Autre question d'auditeur. Lorsqu'on a fait des travaux à Notre-Dame de Paris, on aurait trouvé des sarcophages mérovingiens ou carolingiens. L'invité a-t-il, monsieur donc, Laurentais, a-t-il des informations à ce sujet-là?
Ah, ce qu'on sait, c'est que à la place de Notre-Dame de Paris, il y avait une crypte. Il y a une première église parisienne là, très tôt, et que on a commencé à enterrer au plus près du cœur très tôt dans les églises. Les cimetières extérieurs sont apparus plus tard, et donc on se mettait au plus près de l'autel, c'est-à-dire de là où rayonnait la puissance spirituelle. Donc, il n'est pas étonnant que quand on fait des fouilles dans des églises depuis longtemps consacrées, on trouve des tombeaux. Des sépultures mérovingiennes qui d'ailleurs ont déjà été visitées, qui ont déjà été peut-être même vandalisées, et il en reste encore beaucoup plus à découvrir qu'on en a découvert jusqu'à aujourd'hui.
Ces reines carolingiennes ont été enterrées à Saint-Denis ?
Alors, certaines à Saint-Denis, certaines dans les abbayes qu'elles avaient fondées ou qu'elles avaient gouvernées. C'est elles, presque toujours, ou souvent en tout cas, qui choisissaient le lieu de leur sépulture, mais qui étaient dans des endroits qui appartenaient à la dynastie, c'est-à-dire Saint-Alban de Mayence, c'est-à-dire Saint-Arnoux de Metz, c'est-à-dire Saint-Denis de Paris, et Sainte-Marie de Compiègne, et Saint-Notre-Dame de Laon, et Saint-Martin de Tours, bref, les grands lieux de pèlerinage, les grands lieux sur les, qui sont comme les pierres fondatrices, les pierres d'angle de la royauté carolingienne.
Il reste de ces sépultures où tout a été profané, pillé...
Alors, on a découvert des sépultures intactes, notamment mais mérovingiennes, celle de la reine Arégonde, et qui est visible au musée du Louvre, et surtout celle à Chelles, tout récemment, je veux dire il y a 40 ans, celle de Sainte-Bathilde.
Ah oui.
On a trouvé ses cheveux, on sait qu'elle était blonde, on connaît son groupe sanguin, on sait qu'elle mesure 1m55, et on a toujours sa tunique,
qui
est toujours visible, sa tunique brodée, qui est très jolie.
Oui. Nous avons encore un message d'auditeur à propos des lettres de la sœur de Charlemagne. S'agit-il de la sœur avec laquelle il a eu une relation?
Je vois que notre auditeur est malicieux. En effet, on a parlé d'un péché de Charlemagne. Il y a une version, si vous voulez, de la légende carolingienne, de Charlemagne, disant qu'il avait un péché à expier. La preuve, c'est qu'il avait été, non pas en enfer, mais dans ce qui commence à être le purgatoire, qui est en train de se former à cette époque-là, et que c'était du fait qu'il serrait de trop près ses filles. Pas ses sœurs, mais ses filles. Oui. Et qu'en effet, il a interdit à toutes ses filles de se marier. Ça, c'est un fait.
Alors Laurentès, malheureusement, il ne nous reste que 6 minutes à passer en votre compagnie pour aborder avec vous l'exemple de quelques reines qui vous tiennent à cœur et dont la vie illustre bien justement le pouvoir qu'elles avaient, les actions qu'elles pouvaient entreprendre avec une réelle influence sur ces royaumes ou cet empire carolingien.
Tout naturellement, celle qui me vient d'abord à l'esprit, c'est la reine Judith. Judith est un nom, il n'y a pas de reine qui s'appelle Judith avant elle. Il n'y en aura pas, enfin une seule, sa fille, après elle. D'où lui vient ce nom, qui est certainement un surnom, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que c'était une personnalité, ça on peut l'individualiser, qui a résisté à des tempêtes extrêmes, notamment par la révolte des fils de Louis le Pieux, les fils de sa première femme, la reine Ermengarde, dont nous avons parlé, puisque Judith est la deuxième femme Il l'a épousée en 819, après la mort de sa première épouse, Ermengarde. Eh bien, elle a résisté à des circonstances tout à fait extraordinaires. En 833, les fils de Louis le Pieux, donc les fils de sa première femme, se sont révoltés contre lui. Elle a été enfermée dans un monastère. Elle est revenue. Quelques années plus tard, rebelote, les fils se révoltent à nouveau. Cette fois, elle est déportée en Italie. Déportée en Italie, depuis l'île de France. Elle fait un retour. Et une des preuves de son influence, c'est qu'elle a été très attaquée. Elle a été extrêmement attaquée par des adversaires vraisemblablement liés à la première femme de Louis le Pieux, considérant que Judith était une usurpatrice et qu'elle en faisait trop auprès de Louis le Pieux. Et que surtout, elle protégeait son fils, à elle, Charles le Chauve, contre les fils du premier lit. Ce qui a fait d'ailleurs des grandes guerres entre 841 et 843. Et elle était attaquée, notamment par l'archevêque de Lyon à Gobard, par tout un groupe, en étant soupçonnée, accusée, calomniée d'adultère avec le chambrier, c'est-à-dire le maître du palais royal. Et quand on dit palais royal, on veut dire le cœur battant de la royauté franque. Ce chambrier, Bernard de Septimani, avait pris, disent ces gens-là, trop de place, et s'était enfermé dans la chambre de la reine, non pas pour compter les trésors ou pour faire des calculs, mais pour s'occuper à autre chose. Et c'est à travers le corps de la reine qu'on a visé, qu'on a attaqué Louis le Pieux, et c'est comme ça qu'il a été destitué la deuxième fois. C'était parce que son épouse avait commis un adultère avec Bernard de Septimani, un grand aristocrate languedocien. Ce qui est certainement une calomnie, enfin, en tout cas, on n'en a aucune preuve, mais cela montre son influence, parce qu'il fallait vraiment qu'elle fût puissante, qu'elle fût un obstacle à l'influence de ce groupe, pour qu'on l'attaque avec une violence dans des termes inouïs, des termes que les polémistes d'aujourd'hui, c'est du rififi à côté. C'était extrêmement violent. Putain, tout. Ah oui. Tout s'est passé.
C'est donc, pire que Mélenchon. Hein.
Écoutez, je vous laisse le choix de vos références. Ça, c'est une marque de puissance. Et elle s'en est sortie, et elle est morte dans son lit. Et elle a éduqué un roi très remarquable, qui est Charles le Chauve, qui est certainement, à mon avis, le plus grand prince carolingien. Et je vais en prendre une deuxième, et qui s'appelle Gerberge, parce que celle-là, on ne la connaît pas. Elle a épousé en 938 ou 39 Louis IV d'Outre-mer. Louis IV d'Outre-mer, qui était le fils de Charles le Simple, avait été, à la suite de vicissitudes que je ne détaille pas, envoyé par sa mère, la reine Ogive, je crois que c'est un prénom qui vous plaît, en Angleterre, pour échapper à des complots. Et puis, il était revenu très jeune, c'est pour ça qu'on l'appelle Louis IV d'Outre-mer. Il était revenu très jeune, il avait récupéré le trône carolingien en 936. En 939, il épouse une femme plus âgée que lui, de 6 ans, qui s'appelle Gerberge, qui est la veuve du duc de Lorraine, et qui est une femme, et qui est une maîtresse-femme, et qui tient son mari, et qui tiendra ensuite son fils Lothaire III, à bout de bras, pour réactiver complètement l'idéologie carolingienne et la reporter à ses origines, c'est-à-dire ses origines du baptême sacre de Reims, de Clovis et de Clotilde. Elle fait écrire par un clerc qui s'appelle Adson de Montirandé une vie de Clotilde pour montrer que Louis IV, Louis c'est Clovis, hein, c'est le même nom. Je veux dire, Clovis en latin ça se dit Ludovicus. Que Louis, d'une part, Clotilde, d'autre part, que Lothaire, d'autre part, Lothaire, c'est Clotaire, et Clotaire, c'est le fils de Clovis. Que Lothaire, son fils, et Louis, son mari, sont la réincarnation de Clovis, le vrai, et de Clotaire, son fils très puissant. Donc elle fait, au fond, elle répond par l'idéologie, elle maintient l'idéologie carolingienne comme une race prééminente, alors que les bases matérielles s'affaiblissent. Quand son mari est mort, elle mène une guerre contre les descendants du duc de Lorraine qui veulent lui prendre son douaire, ses terres à elle, qu'elle possédait. Elle mène la guerre à tel point qu'elle fait broder un drapeau, un gonfanon, comme on dit, sur lequel il est brodé. C'est Gerberge qui m'a fait, comme si le drapeau parlait, c'est Gerberge qui m'a fait, et on voit le duc de Lorraine à genoux devant la reine, et ce drapeau, on peut le voir toujours dans la cathédrale de Cologne.
Et c'est l'écran
alors qu'il date de 955. Oui. Et donc, c'était une reine qui a véritablement porté au plus haut le souvenir carolingien. Gerberge, souvenez-vous de Gerberge, elle mérite d'être saluée en 2026.
Eh bien, Laurent Hesse, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir justement le mérite de ces reines carolingiennes injustement oubliées. Vous nous avez parlé de Gerbège, mais il y en a encore bien d'autres à découvrir, à fréquenter, telles que vous l'écrivez. Elles en valent la peine, c'est ce que vous nous dites. Et je vous rappelle le titre de votre livre, Reines carolingiennes, que vous publiez aux éditions Perrin. Merci beaucoup à vous, Laurent Hesse, d'être venu ce soir témoigner en direct de ces superbes reines. Merci à vous, à très bientôt, j'espère, Laurent Hesse.
Certainement.
Bonne soirée.